Gérardine Aliberti-Ibanez, vous avez eu une rude journée aujourd'hui, puisque à l'Auditorium du Thor, ce matin et cet après-midi, il y a eu déjà deux représentations de Ludwig van. Votre nouveau spectacle qui mêle à la fois le théâtre mais aussi la musique, et puis il y a le vernissage de l'exposition qui marche avec le spectacle au Grenier à Sel. Alors d'abord, comment on passe de Berlioz à Beethoven, puisque vous étiez déjà présente il y a quelques temps avec Hector Berlioz?
On passe de Berlioz à Beethoven parce que tout simplement, en fait, c'était une commande aussi. Et on m'avait parlé d'un projet sur Beethoven. Et en fait, c'est vrai que la figure de ce personnage, est fascinant, quoi, d'avoir un compositeur sourd qui continue à composer pour les gens qui entendent, même s'il a convoqué son oreille interne, enfin, s'il a perdu l'ouïe à 28 ans. C'est quand même assez fascinant comme figure. Donc, j'avais un peu plongé dedans. Et donc, en travaillant un peu sur le sujet de la surdité, j'ai fait une formation en langue des signes. Et donc, j'ai rencontré un peu la communauté sourde, sans en faire partie, bien entendu. Et je me suis rendu compte qu'on vivait dans une société complètement audio-centrée et que c'était peut-être important de se poser la question aussi que nous entendons, est-ce que nous savons écouter l'autre? Et donc c'est ça un peu l'objet de l'exposition, c'est de décliner toutes les facettes en fait de l'écoute, donc de l'écoute physique, mais aussi de l'écoute de soi, de l'écoute de l'autre et de l'écoute sociale et politique plus largement. Puisque en fait, moi, ce qui m'a étonnée dans le projet Beethoven, c'est qu'il a écrit plein d'œuvres, mais surtout la 9e symphonie, qui est une des plus connues, enfin en tout cas une des plus utilisées dans l'histoire politique, puisque ça va devenir, un siècle et demi plus tard, l'hymne de l'Union européenne. Et cette Union européenne enlève les paroles, et ce que j'ai trouvé original et étonnant, c'est de choisir l'œuvre d'un compositeur sourd qui n'a plus réussi à communiquer avec ses concitoyens, et on choisit cette œuvre pour qu'on puisse s'entendre entre toutes ces langues et tous ces pays, ces 27 cultures, ces 27 langues différentes qui constituent l'Union européenne. Donc je suis partie de ce point de vue-là sur l'écoute et la surdité. Est-ce que nous ne sommes pas, nous, entendants, finalement, est-ce que nous savons vraiment écouter l'autre, s'écouter soi-même? Et quelqu'un de sourd, en fait, sait parfaitement bien aussi écouter l'autre puisqu'il a plein de moyens de communiquer, notamment la langue des signes.
Il y a un mot qui est quand même assez présent, notamment au début du concert et du spectacle, c'est malentendu. Par exemple, vous parlez des percussions, du piano, enfin des différents pupitres que Beethoven a magnifiés dans son œuvre. Et dans la deuxième partie, c'est Beethoven finalement qui parle et qui peste, parce qu'il n'est pas content, de la façon dont on utilise ou on détourne ses œuvres. C'est-à-dire que les nazis écoutaient du Beethoven, et ça, ils ne le supportent pas, par exemple. Ça, c'est quand même un sacré malentendu.
Oui, c'est un sacré malentendu. Après, je le fais parler à ma place. Je ne sais pas ce qu'il en aurait pensé. Après, c'était quand même un personnage assez humaniste. Les paroles initiales de l'hymne à la joie, c'est « Tous les hommes sont frères ». Et c'est vrai que c'est quand même étonnant de prendre cette œuvre, l'ode à la joie, pour célébrer les anniversaires d'Hitler. C'est une pièce aussi qui a été chantée dans les chambres à gaz pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a été chantée par des chœurs d'enfants à Auschwitz. Enfin, elle a une sacrée histoire, en fait, cette mélodie. Puis plus tard, par l'Union européenne. Puis elle a été utilisée aussi par quelques partis aussi d'extrême droite dans le monde, en tout cas des partis très autoritaires. Et voilà, c'est toute cette question-là. En fait, qu'est-ce qu'il aurait pensé aujourd'hui de l'utilisation de son œuvre?
Par rapport à l'utilisation des percussions, si Beethoven n'avait pas été sourd, est-ce qu'il aurait utilisé les percussions de cette façon? C'est la question qu'on se pose quand on voit le spectacle.
Oui, parce que je m'amuse avec cette question des percussions, parce qu'avec les percussions, on ressent plus de vibrations qu'avec un autre instrument. Et je trouve sa musique très rythmique. Et donc, pour jouer un petit peu, parce qu'il y a une scène d'un musicologue un peu ringard à un moment qui raconte un peu son sujet de recherche et qui s'attache à développer l'idée du rythme dans la musique. Est-ce qu'il aurait composé une œuvre aussi rythmique, aussi percussive, s'il n'avait pas été sourd?
J'ai l'impression que aussi bien dans le spectacle que dans l'exposition, vous voulez nous mettre dans, disons, la tête et dans les conditions d'une personne qui n'entend pas ou qui entend mal.
Oui.
Ben, un peu immersif, comme on dit.
Oui, j'essaye. En fait, je me dis que nous qui entendons, en fait, on entend mal. On s'entend mal.
C'est la différence que vous faites entre la musique et l'écoute sociale. Il y a tout un panneau là-dessus.
Oui, j'aime beaucoup ce panneau, en fait, parce que ça raconte, en fait, tous les mots qui appartiennent au champ lexical de la musique et qui nous influencent beaucoup, parce que, par exemple, le mot accord, c'est un accord de trois sons qu'on joue en musique, mais c'est aussi des accords qu'on va signer une fois qu'on a trouvé des compromis, une fois qu'on s'est mis d'accord, on va signer un accord. Aussi, il y a un autre mot, par exemple, concert. Bon, bah, concert, c'est un concert de musique, mais c'est aussi se concerter, c'est aussi se mettre d'accord. Le concert de la nation, par exemple, 1816, auquel Beethoven a participé, je pensais bêtement que c'était un concert de musique, mais en fait pas du tout. En fait, c'est tous les décideurs européens de cette époque-là, en fait, qui se sont réunis à Vienne pour se mettre d'accord et pour bloquer toute forme de révolution, comme il s'était passé en France. Et ça s'appelle le concert des nations. Donc voilà, il y a plein de mots. Il y a diapason, se mettre au diapason, le bémol, en fait, la tonalité, se mettre d'accord. Il y a tous ces mots, composer par exemple, composer une œuvre musicale, mais aussi composer avec, faire avec l'autre. Et j'ai trouvé ça étonnant en fait, tous ces rapports de la musique et du son avec nos rapports sociaux et amicaux.
On vous a posé la question à l'issue de la représentation cet après-midi, je vous la repose parce que c'est quand même assez étonnant, parce qu'on entend par exemple la voix du pape, qui parle en italien. Mais il y a combien de langages dans votre spectacle ?
Parce qu'en fait, l'hymne à la joie, enfin l'ode à la joie, qui est choisi pour symboliser l'Union européenne, en fait, il y a une grande question, il n'y a plus de paroles. Mais il n'y a plus de paroles aussi parce que, tout simplement, c'était compliqué de choisir une langue. Déjà, on choisit un compositeur allemand, et il y avait Mitterrand qui avait proposé un auteur français pour écrire le poème. Bon, c'est très franco-germanique comme alliance, pour réunir quand même tous ces pays. Et donc, à un moment, je me suis posé la question, mais en fait, dans quelle langue il faudrait le faire ? Mais en fait, il faudrait le faire dans toutes les langues. Et je pense que l'ode à la joie, et pour avoir envie justement d'écouter l'autre, et d'écouter... C'est pour ça que je mets plein de langues différentes, même si on ne les comprend pas, en fait, on tend l'oreille. Ça me rappelle aussi les écrits de Roland Barthes qui raconte quand il va au Japon qu'il ne connaît pas la langue. Et il dit, mais tant mieux que je ne connaisse pas la langue parce que en fait, j'ai développé toute une sensorialité autour de moi pour les comprendre. En fait. Si j'avais connu ça, je serais passée à côté de plein d'autres choses. Et donc, c'est pour ça que je mets plein de langues différentes parce que bah, c'est le vœu que je fais. En fait. Une ode à la joie, en fait, c'est une ode aussi à la découverte et à la curiosité. Et ben oui, j'aimerais bien parler toutes les langues et je souhaite ça à tout le monde, de parler le plus de langues possible, même celles des animaux. Hein. On vient de découvrir que les dauphins avaient plein de signes. Dans le spectacle, bon, bah, y a de l'italien, il y a de l'espagnol, du grec, du slovaque, du hongrois, du coréen, de l'ukrainien, bien entendu. Il y a un dialecte du Gabon, il y a du kabyle, il y a de l'arabe littéraire. Il y a beaucoup de langues.
Et puis il y a quand même, à la fin du spectacle, une image magnifique qui d'ailleurs déborde sur la salle, puisqu'en fait c'est un chœur, mais un chœur silencieux. C'est une chanson que vous avez écrite en langue des signes, d'ailleurs c'est facile d'écrire en langue des signes.
Alors c'est pas moi qui l'ai écrite en langue des signes, moi je l'ai écrite avec des mots que j'ai mis sur un papier et que j'ai confié à la compagnie Les Petites Mains, qui est dirigée par Igor Casas, et lui l'a traduite en langue des signes. Et je trouvais ça joli, en fait, tout simplement, de le faire avec une langue qu'on ne connaît pas, enfin une nouvelle langue, parce que si on doit s'entendre en Europe et bien au-delà de l'Europe, en fait, s'entendre dans tous les pays, parce qu'en ce moment, il y a quand même un peu des problèmes de conflit et donc de communication, je trouvais ça important de créer une nouvelle langue, justement, qui met tout le monde d'accord.